Zacharie, chapitre 4. Nous allons d'abord lire jusqu'au verset 7. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant cette lampe, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel ? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. » Eh bien, cette fois-ci, dans ce chapitre 4, donc, ce n'est plus Josué, le souverain sacrificateur, qui est en cause, mais c'est Zorobabel. Josué était le souverain sacrificateur, mais le peuple de Dieu était aussi gouverné par un roi. Il y avait donc dans les structures du peuple le sacerdoce et la royauté. Puis s'ajoutait le prophète, la fonction de prophète, autant qu'il en était besoin. Mais elle n'était pas celle-là constante, tandis que les deux autres étaient constantes. La fonction royale devait être tenue séparée de la fonction sacerdotale, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les mêmes hommes qui pouvaient exercer l'une ou l'autre. Deux rois s'avisèrent de vouloir agir comme sacrificateurs et ils furent tous deux gravement châtiés. Les deux fonctions seront donc tenues distinctes, la fonction du souverain sacrificateur à Aaron, les sacrificateurs, les lévites, n'est-ce pas ? Et puis la fonction royale, la tribu de Judas. Les deux fonctions, nous le verrons dans la suite du livre de Zacharie, vont toutefois se trouver réunies, mais dans une main qui n'est pas encore là, quand parle le prophète, il en parle lui, mais elles vont se trouver réunies, n'est-ce pas, en la personne du Messie. Zorobabel était le petit-fils du roi Jéconias. Cela, nous le trouvons dans le début des chroniques, du premier livre des chroniques. Et il fut le conducteur de cette première grande cohorte de Juifs qui revenait à Juda, en Juda, de Babylone, comme nous le montre le livre d'Esdras. Zorobabel était donc un descendant de David. Et il n'est pas appelé roi ici, parce que Cyrus, que Dieu avait suscité pour ramener son peuple, par ce fameux décret ou édit de 536 avant notre ère, Cyrus lui avait confié le gouvernement de cette province babylonienne, puisque Juda était devenue une province babylonienne, n'est-ce pas, par annexion. Alors il lui avait confié le gouvernement de la province où les Juifs allaient retrouver leur pays. Alors il était en somme gouverneur de par une nomination, une désignation du roi de Babylone. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la précédente vision a laissé derrière elle un creux, un vide, un silence, et puis naturellement ça se passe au milieu de la nuit. Zacharie s'est endormi. Ah, il s'est endormi. Et puis voilà que l'ange le réveille, c'est pas fini, n'est-ce pas? Il n'a eu que 4 visions, voilà la 5e, il en faut 8. Il va en avoir 8 dans la même nuit. L'ange qui parlait avec moi me réveilla. Alors il est réveillé pour à nouveau être introduit dans un état d'extase, mais un état qui nécessite l'état de veille, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit à l'état de veille pour être ravi en esprit, c'est l'expression biblique, ravi en esprit, c'est-à-dire amené devant des visions qu'il va obtenir en esprit. Je ne sais pas si vous avez jamais eu une communication en esprit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai eu une personnellement, n'est-ce pas? C'est quelque chose de remarquable. Il faut avoir connu cette expérience pour vraiment savoir ce que veut dire l'expression « ravi en esprit », n'est-ce pas? Une communication d'esprit avec Dieu. Alors là, il semble en effet que les moyens de l'homme soient tout à fait abandonnés, n'est-ce pas? Pourtant, il y a bien, l'homme est bien là, n'est-ce pas? Le personnage, l'individu, n'est-ce pas? Est bien là, il y a bien quelque chose, n'est-ce pas? Qui maintient la personne, n'est-ce pas? Dans sa conscience, on conserve une conscience de soi, mais on se trouve dans un tout autre monde, n'est-ce pas? Et c'est l'esprit qui parle. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, n'est-ce pas? Je l'ai eu qu'une fois. Je ne vais pas me vanter de l'avoir eu souvent, une seule fois, mais c'est quelque chose vraiment de remarquable, n'est-ce pas? L'esprit qui parle directement à l'esprit, cela dans une atmosphère spirituelle indéfinissable de joie, n'est-ce pas? On sent un bonheur, on ressent un bonheur qu'on ne peut pas décrire. Une sensation, n'est-ce pas, qui enveloppe l'être tout entier, qui le transporte dans un état de bonheur indescriptible, absolument indescriptible. Et là, n'est-ce pas, l'esprit tranquillement parle, montre, donne des indications, c'est extraordinaire. Alors, c'est dans cet état, donc, qu'était le prophète. Et il est amené à nouveau à la perception d'une vision. L'état de ravi en esprit, état d'extase, va lui permettre de percevoir une vision divine. Et Zacharie voit un chandelier d'or, ou plutôt un candélabre, n'est-ce pas? Évidemment, nos textes portent chandelier. Il ne s'agissait pas de chandelle. Il s'agissait, n'est-ce pas, de branches qui portaient des lampes à huile. Donc, le mot candélabre serait peut-être mieux à sa place, mais enfin, ne discutons pas, il suffit de savoir qu'il s'agit de cela. Ce candélabre portait donc 7 lampes, mais celui du temple, vous savez qu'il y en avait un dans le temple, n'est-ce pas, un chandelier, celui-là avait les branches qui portaient les lampes sur un même plan, n'est-ce pas? Tandis que celui qui nous est décrit ici semble au contraire avoir des branches qui l'entourent, tout autour, n'est-ce pas? Comme j'ai essayé de le représenter là-dessus. Le pied du candélabre s'élevait au-dessus des lampes était surmonté, nous est-il dit, d'un vase. Et ce vase était relié aux lampes par un conduit pour chaque lampe. Je n'ai pas présenté ici les conduits, mais enfin, on peut les imaginer, n'est-ce pas? Notez que l'huile pourrait très bien descendre dans le pied puis remonter par les... Mais enfin, en principe, le texte nous dit qu'il y avait des conduits. Enfin, c'était donc un candélabre qui ne ressemblait pas à celui du temple. Le temple n'avait pas de vase sur son pied. Il n'avait pas non plus de ces conduits dont il est parlé ici. Dans le temple, il fallait remplir les lampes d'huile chaque jour. Alors, il y a, au verset 3, il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et un dispositif qui n'est pas indiqué ici, mais qui le sera plus loin, Voyez au verset, les versets 11 et 12, lisons ces versets 11 et 12. « Je pris la parole et je dis que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or. » Il y a donc en plus des conduits qui vont à chaque lampe à partir du vase central, n'est-ce pas ? Voyez-vous ? Voilà le vase, voilà le pied, n'est-ce pas, du candélabre, je pense que ça se voit assez bien, oui, il se distingue assez bien. Voici, n'est-ce pas, un vase, un réservoir que j'ai mentionné là, et il y a alors donc des conduits que je n'ai pas figurés, et qui peuvent, si vous voulez, aller à chaque lampe, n'est-ce pas, alimenter chaque lampe. Et alors, là, il y a, en somme, deux conduits dont nous parle le verset 12, deux conduits qui reçoivent du rameau, des rameaux, n'est-ce pas, ces oliviers, voilà les oliviers, n'est-ce pas, qui reçoivent l'huile d'or. En somme, ce sont des rameaux, dans le texte hébreu, ça, c'est un mot qui se rapproche d'épi, qui veut dire plus exactement grappe, n'est-ce pas ? Alors il y a ici des rameaux avec des grappes d'olives, n'est-ce pas ? Et ces olives laissent tomber de l'huile d'or, dans ces deux conduits qui alimentent le vase et lui-même alimente les sept lampes du chandelier. Voilà approximativement, schématiquement, la description que nous donne le texte, et vous savez que les descriptions bibliques sont toujours extrêmement concises. Les deux oliviers, donc, alimentent le réservoir commun, leurs fruits laissent couler l'huile, qui est appelée l'or, l'huile d'or, dans le vase. Alors, au verset 4 et 5, et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur ? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis non, mon Seigneur. Ah, la question du prophète ne pouvait pas évidemment manquer. Il se trouve devant ce chandelier qu'il n'a jamais vu, puis ces deux oliviers qui directement alimentent les lampes par l'intermédiaire de conduits et de vases, n'est-ce pas ? Il se demande évidemment ce que c'est, il n'a jamais vu cela, il est intrigué par cette vision, il sait bien qu'il y a là un sens, mais il ne le pénètre pas. Et la réponse que l'ange lui fait, tout d'abord, semble laisser entendre que Zacharie aurait peut-être pu commencer à comprendre quelque chose. Cela, n'est-ce pas, peut-être pour nous, porte une leçon. Il faut toujours recueillir au passage les leçons qui nous sont nécessaires. Eh bien, souvent, n'est-ce pas, nous allons un petit peu vite à dire « je ne comprends pas ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis on attend l'explication de quelqu'un. Mais mes amis, il m'est arrivé, moi, souvent, parce que, comme évidemment, j'enseigne la Bible, il faut bien que je m'efforce de la comprendre moi-même, n'est-ce pas ? Et alors, il m'est arrivé souvent, arrive tout le temps, de buter sur des difficultés. Et alors, je ne dis pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je regarde quelquefois dans un livre ou dans l'autre, et je n'y trouve rien ou rien de satisfaisant. Ah, alors, je fais une chose, je dis, eh bien, le Seigneur a écrit ça pour qu'on comprenne. Alors, il faut comprendre. Et je prie et je demande au Seigneur, fais-moi comprendre. Et le Seigneur me fait comprendre. Enfin, alors, voyez, il faudrait peut-être pas s'arrêter trop tôt devant une difficulté, mais apprendre à consulter le Saint-Esprit quand vous méditez. Apprendre à consulter le Saint-Esprit. Vous savez que à Nicodème, Jésus dira, n'est-ce pas, dans le chapitre 3 de Jean, comment ? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? Ben, il a interrogé, il dit, je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire, je comprends pas du tout. Comment ? Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ce que tu ne comprends pas ce que je te dis ? Tu devrais comprendre. Effectivement, n'est-ce pas ? Il faut bien dire que Nicodème avait, dans la connaissance qu'il possédait de l'Ancien Testament, tout ce qu'il lui fallait pour comprendre la parole du Seigneur. Mais il ne fait pas un effort d'esprit. Il y a aussi les les apôtres, n'est-ce pas, qui écoutent la parabole du semeur, par exemple, n'est-ce pas, prononcée par le Seigneur Jésus, puis qui sont là, ne savent pas ce que ça veut dire, alors ils n'osent pas tout à fait dire « n'avons pas compris, Seigneur, explique-nous », alors il leur dit « pourquoi leur parles-tu à eux en parabole ?» Mais ça veut dire « on n'y comprend pas plus qu'eux, n'est-ce pas ? On n'a rien compris, tu leur parles en parabole, ils ne vont pas comprendre, tu sais. » Mais nous, nous n'avons pas compris davantage. Alors le Seigneur va leur expliquer cela. Alors ici, n'est-ce pas, il y a donc une petite... quelque chose qui est marqué par l'ange. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Tu ne le sais pas? Je dis, non, mon Seigneur, je suis bien obligé d'avouer, non, mon Seigneur, je ne sais pas ce que ça signifie. Alors, l'ange va expliquer, mais vous savez, il n'est pas prolixe, il va donner, vous savez, des explications et il faut... et y réfléchir pour en découvrir même le sens, découvrir le sens des explications que l'ange donne au prophète. Alors, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, il n'y a pas un mot de trop, il y en a plutôt même en moins, n'est-ce pas? On aimerait peut-être mieux, n'est-ce pas, que l'ange se soit expliqué un peu plus longuement. Dieu avait précédemment établi Josué dans sa fonction de souverain sacrificateur. Il faut maintenant rétablir la fonction royale, puisque, nous l'avons dit, l'une et l'autre fonction sont indispensables au peuple, sont indispensables à la restauration de l'Alliance. Avec Jérusalem détruite, le temple complètement démoli, n'est-ce pas, et le peuple en exil, il n'y avait plus d'Alliance. Il n'y avait plus de peuple de Dieu, plus d'Alliance, plus rien du tout. Alors il faut remettre tout ça en place dans les conditions de la loi de Moïse. C'est donc toute une restauration qu'il faut faire. Le temple, la construction du temple est un peu comme, si vous voulez, le signe, n'est-ce pas, le signe vraiment matériel de cette reconstitution, mais c'est tout l'ensemble qu'il faut reconstituer. Donc, il faut restaurer l'Alliance. Zorobabel pouvait s'inquiéter et considérer qu'une telle restauration de tout ce qui avait existé avant l'exil, une telle restauration était une œuvre difficile et une œuvre exigeante de moyens, de toutes sortes de moyens qu'il n'avait pas. Il n'avait pas grand-chose. Cyrus l'avait envoyé là-bas comme gouverneur. Il avait une partie du peuple juif qui était d'ailleurs découragée, ne connaissait plus du tout le service du temple, il n'y avait plus de temple, il n'avait pas les matériaux nécessaires, il n'avait pas d'argent, tout le monde était pauvre à ce moment-là. Il n'y a qu'à lire, par exemple, Esdras et Néhémie pour se rendre compte, n'est-ce pas, que ce peuple qui était revenu de la captivité était dans une grande pauvreté, dans un grand dénuement. Alors, Zorobabel y restaurer le royaume de David ou de Salomon, n'est-ce pas? Avec quoi? Nous n'avons rien, nous n'avons pas un soldat, nous n'avons pas de bons ouvriers, nous n'avons pas d'argent, pas de matériaux, nous n'avons absolument rien, n'est-ce pas? Reconstruire le temple, donc, et restaurer le sacerdoce avec le gouvernement royal, sans aucune force, sans travailleurs, sans soldats, c'était une œuvre quasiment impossible. Où trouver l'audace? Où trouver les hommes? Où trouver le courage? Où trouver la force? Voilà, n'est-ce pas, ce que Zorobabel se disait. Moi, je voudrais, mais où vais-je trouver tout cela? Et l'Éternel répond à cette préoccupation en lui disant, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, sous-entendu, n'est-ce pas, que tout cela s'accomplira. C'est par mon esprit. Alors, ne cherche pas la puissance, dont tu crois avoir besoin avec une armée de soldats et une armée même de militaires, n'est-ce pas, une armée combative pour te défendre et te protéger, ne cherche pas à avoir la puissance des moyens, la force humaine, n'est-ce pas, ne cherche pas les apparences de toutes ces choses, car tout ce qui va se refaire, mais uniquement par mon esprit. C'est mon esprit qui va faire tout cela. Ah, chers amis, et là, il y a, je vous assure, une leçon magnifique, n'est-ce pas? La force humaine ou les moyens visibles ne sont pas à considérer, car c'est la force de l'Esprit de Dieu qui va s'y employer. Il faut évidemment une condition, c'est que Dieu le veuille, que ce soit le moment de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que l'on soit sûr que Dieu veuille telle œuvre, à tel moment, là, à tel endroit. Mais si c'est le cas, eh bien, ne cherchons pas à nous entourer de moyens, parce que c'est la force de l'Esprit qui le fera. Nous oublions trop facilement, nous pourtant chrétiens, nous devrions être vraiment très pénétrés de cela. Nous oublions que l'Esprit est au principe de tout ce qui existe. Si vous voulez, la matière quelle qu'elle soit, la matière est fille de l'Esprit, avec un grand T. Ce que Jean nous dit dans le début de son évangile, en nous parlant de la parole de Dieu qui était Dieu, qui était avec Dieu et qui est Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il nous dit que tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Mais c'est tout un principe, cela, extraordinaire, n'est-ce pas? Ça doit être toute la base d'une métaphysique de la foi, n'est-ce pas? Tout a été fait par la parole de Dieu, qui est donc esprit. Tout a été fait par l'esprit de Dieu. La matière est cela. La matière qu'est-elle? La matière, n'importe quel physicien aujourd'hui vous dira que les particules qui forment les différentes parties de l'atome, n'est-ce pas? Les particules sont elles-mêmes des agrégats d'énergie, n'est-ce pas? C'est de l'énergie condensée, c'est pas une énergie extraordinairement condensée. C'est la matière se dissout, sa masse disparaît lorsque il y a explosion, par exemple une explosion atomique, n'est-ce pas? Eh bien, alors à ce moment-là, la masse diminue, la masse s'en va, la masse se résout, en somme, en énergie libérée. Et par conséquent, n'est-ce pas, l'énergie. Qu'est-ce que c'est en mécanique? On sait, on peut dire ce que c'est, n'est-ce pas, que l'énergie, évidemment, se servant de la mécanique. Mais attention, là, il s'agit d'une énergie condensée. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Personne, aucun physicien n'a pu le dire, n'est-ce pas? On ne peut pas dire ce qu'est l'énergie. Nous rencontrons là encore, n'est-ce pas, un concept qui est métaphysique, n'est-ce pas? Comment définir l'énergie? L'énergie qui est condensée, qu'est-ce que c'est que de l'énergie? En mécanique, je dis oui, ça va bien, n'est-ce pas? L'énergie, cela vient du travail dans un temps déterminé, n'est-ce pas? Un travail fait dans un temps déterminé, voilà de l'énergie. Mais là, de l'énergie qui est condensée, qu'est-ce que c'est que ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut être? On n'en sait rien et pourtant c'est le langage qu'il faut employer, n'est-ce pas? Il n'y en a pas d'autre. Et l'énergie étant le matériau premier de tout, eh bien l'énergie elle-même est quelque chose d'immatériel. Ah, voilà. Nous arrivons à cela, c'est que, dans le fond, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 3, tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable, littéralement, a été fait de choses qui ne n'est pas palpable. Voilà. Alors, chers amis, n'est-ce pas? C'est ça, nous faudrait que nous soyons, nous, à l'inverse des matérialistes, qui diront que l'esprit procède de la matière, vient de la matière, nous nous disons toute la matière vient de l'esprit et de l'esprit de Dieu, bien entendu. Alors, il faut que nous songions à cela et que nous sachions que Dieu, dans son œuvre de salut, mais va se servir, bien entendu, de la force de son esprit pour une œuvre comme celle-là, qui est d'essence spirituelle, bien plus encore que pour la matière, n'est-ce pas, va-t-il se servir de cette puissance, de cette énergie qui est dispensée par l'esprit. Ce n'est pas par puissance, mais par mon esprit. C'est là une déclaration qu'il faut généraliser à toute l'œuvre de Dieu, et notamment à l'Église. Oh, chers amis, si l'on oublie ça, et que l'on s'appuie sur des moyens, que l'on soit à la recherche de moyens multipliés, que ce soit la littérature, que ce soit des distributions, que ce soit de la publicité par tel et tel moyen, on en vient de plus en plus à rechercher la publicité. Chers amis, je dis tout cela est vain. Le Seigneur dit, ce n'est pas par cette puissance-là, ce n'est pas par cette force-là, mais par mon esprit. La Pentecôte se doit de rechercher la puissance du Saint-Esprit pour toute l'œuvre qui est accomplie. Qui est accomplie, n'est-ce pas? Et ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Il faut savoir prier, jour après jour, prier instamment, persévérer dans la prière. Il faut être à l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit. Ah, ne pas se laisser déranger de cela par quoi que ce soit. Et puis, certainement, l'Esprit répondra. Nous l'avons vu, ce que je vous dis là, je ne vous le dis pas seulement selon les textes, je l'ai vu dans l'expérience, je l'ai vu se produire, se faire, c'est quelque chose de magnifique. Quand l'Esprit de Dieu, alors, se met, n'est-ce pas, à répandre sa puissance pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, mais alors, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. Vous voyez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour avoir de la foi, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vous dit, celui-là, il est guéri maintenant. Alors, n'est-ce pas, il suffit d'avancer les mains, n'est-ce pas? Et voilà que la personne désignée sort de son état, de sa maladie. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? C'est magnifique. Il y a une grande facilité dans l'œuvre lorsque l'Esprit de Dieu a déployé et déploie sa puissance. C'est merveilleux. Et c'est comme ça que l'Église peut se construire, c'est comme ça qu'elle peut se développer et conquérir le monde. Il ne faut pas chercher autre chose, n'est-ce pas? Attention, nous sommes peut-être sollicités de nous aussi de rationaliser notre vue, hélas, n'est-ce pas, et d'être à la recherche de moyens puissants dans les apparences, de moyens forts. Non, nous dit le Seigneur, je n'en veux pas, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est mon esprit, c'est par la force de mon esprit que ces choses-là s'accompliront. Enfin, vous avez bien vu que toutes les tentatives faites pour développer l'Église, toutes ces grandes réunions pour rechercher des méthodes nouvelles d'évangélisation adaptées à notre civilisation, vous voyez bien que tout cela ne donne rien du tout. C'est pas ça qui fait avancer l'œuvre de Dieu, mais le témoignage de chrétiens remplis du Saint-Esprit, ça fait avancer l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qui fait avancer. Moi, je vous dis une chose, c'est que les églises se sont construites par le témoignage, et le témoignage d'esprit, du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le dimanche, quand nous sommes réunis, exercer quelques dons spirituels, c'est pour construire l'Église, c'est pour accomplir toute l'œuvre du Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, dit le verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. La grande montagne, c'était l'impossibilité qui semblait faire obstacle à l'œuvre à accomplir. Hein, une montagne qui, grande montagne, montagne énorme, n'est-ce pas? C'est ainsi que se présentaient à l'esprit de Zorobabel les difficultés insurmontables qui étaient devant lui, n'est-ce pas? Une grande montagne. Alors, une montagne qui ne laisse aucun passage, il faudrait peut-être l'escalader, mais ce sont des parois abruptes, n'est-ce pas? Une montagne impossible à franchir. Alors, c'est un barrage total, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Eh bien, ça n'est jamais impossible quand Dieu le veut, quand Dieu a dit que cela se ferait. Par l'action de l'Esprit de Dieu, cette montagne disparaîtra, elle sera aplanie, elle disparaîtra, elle fera place à un terrain tout plat, aisément accessible. Alors on verra à la place de la montagne, n'est-ce pas, une belle avenue, là, n'est-ce pas. Alors il n'y aura qu'à foncer, qu'à avancer là, n'est-ce pas, tout sera aplani. Combien j'ai vu de problèmes, même particuliers, qui étaient comme des montagnes devant ceux qui avaient à en souffrir, et ces problèmes s'évanouirent par la prière. J'en ai vu de ces choses. Des problèmes qui s'évanouissent entièrement, comme cette montagne, n'est-ce pas, qui tout à coup fait place à une plaine, à un terrain plat. Il n'y a plus de montagne, il n'y a plus rien. Vous savez ce qu'a dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 21, à propos du figuier qui avait été maudit. Puissance de la foi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ah, mes amis, mais quelque chose, ça. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que le Seigneur Jésus ne se serait par hasard trop avancé, n'est-ce pas? Non, nous savons que cela est vérité. Alors, à nous de saisir une telle vérité. Par l'action, donc, du Saint-Esprit, toute montagne, toute grosse difficulté disparaît. Et puis, dans le verset 7 toujours, nous avons ceci, tu seras aplani, oui, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Zorobabel posera la pierre principale. Alors, la pierre principale, c'est celle du temple. Alors, j'ai déjà dit que on hésite entre eux, sur le... entre, mettons, la pierre de la fondation, la pierre d'angle, la pierre de base, n'est-ce pas, cette pierre qui donne lieu quelquefois pour les édifices à des cérémonies d'inauguration, pas d'inauguration, mais de pose de première pierre, n'est-ce pas, pose de première pierre, eh bien, ça peut être ça, ou ça peut être la pierre du fronton. On ne peut pas le dire exactement, l'hébreu n'est pas tout à fait décisif. Quant à la vulgate dans le latin, c'est capitalis lapis, c'est-à-dire la pierre capitale, la pierre principale, n'est-ce pas? C'est tout ce que l'on peut dire. Alors, mais que ce soit la pierre du fondement ou la pierre du couronnement, n'est-ce pas, peu importe, quand Zorobabel posera cette pierre, il y aura dans le peuple une grande joie, des acclamations, et le peuple criera grâce, grâce, non pas pour elle, mais grâce à elle. Ce qui appelle la grâce de Dieu, le maintien de cette grâce. Tant il est certain pour le peuple maintenant que l'édifice ne durera qu'autant que la faveur divine, c'est-à-dire la grâce, lui sera conservée. Enfin, le peuple vient de faire une tragique expérience. Il a vu son temple rasé. Il le voit encore, là, son temple rasé. Alors, quand le temple, n'est-ce pas, se reconstruira et composera, n'est-ce pas, la pierre, soit du fondement, soit la pierre frontale, n'est-ce pas, alors, grâce, grâce pour elle, que cet édifice soit agréable au Seigneur et qu'il subsiste à toujours. Voilà ce que veut dire grâce, grâce à elle. Verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. » Voilà ici une assurance qui est donnée que la reconstruction de la maison, du temple, sera achevée. On peut très bien ici voir aussi une allusion à la maison d'Israël, c'est-à-dire au peuple qui est ramené, n'est-ce pas, dans ces structures de la loi de Moïse. Assurance donc de la reconstruction, de la restauration, et que cette reconstruction sera achevée. Dieu dit, n'est-ce pas, que les mains de Zorobabel l'achèveront. Et ce sera le signe que l'Éternel a bien envoyé son ange vers Zacharie. Zacharie qui va livrer ses choses à Zorobabel, n'est-ce pas, puisqu'il est chargé de transmettre un message à Zorobabel, eh bien, il va lui dire maintenant, tu sauras à ce moment-là que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le niveau, là aussi il y a une petite indécision dans le texte original, on ne sait pas si c'est un niveau d'eau, n'est-ce pas, ou si c'est un fil à plomb. Bon, enfin, peu importe que ce soit le fil à plomb pour trouver la verticale ou le niveau pour trouver l'horizontale, n'est-ce pas, ça n'est pas bien grave. Alors, ici, n'est-ce pas, il est dit en somme ce que voici, « Vous qui jugez toutes choses sur les apparences, le peuple en était arrivé là, juger toutes choses sur les apparences, et qui méprisait ce qui, en apparence, n'est qu'une faible amorce de l'œuvre, eh bien, vous serez obligés de vous réjouir lorsque vous verrez que l'œuvre prend forme et s'accomplit. Vous y verrez le prince de Juda, parce qu'il était prince, n'est-ce pas, Zorobabel, le plomb, le fil à plomb à la main, ou le niveau à la main, peu importe, n'est-ce pas, vous le verrez ainsi. L'œuvre qu'il entreprend est certes une œuvre téméraire, une œuvre chétive au départ, mais c'est une œuvre confiée à la force du Saint-Esprit, et vous verrez l'œuvre grandir et s'accomplir. Alors, ne soyez pas de ceux qui disent, pensez donc à ce qu'il y a. Il y a deux fois rien, trois pierres, il y a deux morceaux de bois. Et il n'y a pas un ouvrier, n'est-ce pas, qualifié, vous voudriez construire le temple avec ça. Vous méprisez les petits commencements parce qu'il y a trois hommes ou quatre hommes qui sont en train d'ajuster une pierre et vous ne voyez pas la suite. Vous méprisez les petits commencements. Des petits commencements qui, humainement vus, sont téméraires. Hein? Eh bien, attention, si c'est l'Esprit de Dieu qui s'en charge, ne les méprisez pas, parce que l'œuvre de Dieu commence toujours comme ça, par de petits commencements. Et il y a là une leçon, chers amis, qui nous atteint, une leçon qui nous atteint jamais. Dieu ne va installer quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas, prendre un homme qu'il qualifie, n'est-ce pas, en lui disant, bon, eh bien, écoute, voilà, n'est-ce pas, une très jolie salle, voilà un building, tu mets une belle enseigne devant ta porte, n'est-ce pas, tu vas avoir tout de suite une belle automobile, tu vas avoir ton compte, prends tout de suite ton compte en banque, n'est-ce pas, enfin, n'est-ce pas, raison sociale, fais une large publicité, voilà, tu n'as encore personne, mais ta salle va se remplir. Non, jamais, n'est-ce pas, Dieu ne commence comme ça. Dieu commence une œuvre par un tout petit commencement. L'œuvre commence avec deux, trois personnes qui prient, qui sont ensemble. Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà les commencements de Dieu. À ceux qui rêvent de commencements extraordinaires, j'ai vu des gens nous envoyer des circulaires. Voilà, nous avons décidé, n'est-ce pas, ils étaient un comité de quatre ou cinq, nous avons décidé, n'est-ce pas, de faire une œuvre comme ceci, comme cela, elle va s'étendre sur la France, elle va s'étendre sur l'Europe, etc. Alors, il nous faut beaucoup d'argent, n'est-ce pas, et ils demandaient à tout le monde de leur envoyer beaucoup d'argent avec des projets grandioses, n'est-ce pas. Eh bien ça n'est pas l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel se fait par des petits commencements. Demandez à M. Pommier si il a commencé, lui, n'est-ce pas, avec une belle limousine et une grande salle, n'est-ce pas? Il a commencé avec une bicyclette.
Ce qui n'était pas la moindre.
Les petits commencements, mais c'est magnifique les petits commencements, n'est-ce pas? C'est peut-être à l'inverse de ce qu'on aime dans le monde, mais c'est ainsi. Et puis alors, dans notre verset, nous avons vu aussi ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Ces sept, c'est-à-dire les sept yeux dont il a été parlé, notamment au chapitre 3 et au verset 9. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Alors, les sept yeux, ceux de la pierre, ces yeux parcourent toute la terre. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, c'est-à-dire qui inspectent la terre. Pourquoi ? À propos du temple, les yeux, les sept yeux de l'Éternel, c'est-à-dire la totalité des vues, si vous voulez, de l'Éternel, la vue entière de l'Éternel, va-t-elle se porter sur toute la terre? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'un petit commencement, il s'agit d'un humble travail que fait d'abord Zorobabel, et même quand il aura achevé la construction du temple, ce ne sera jamais qu'un édifice là, Jérusalem. Ça n'a pas, humainement parlant, d'envergure, n'est-ce pas, à l'échelle de toute la terre, de toute la population de la terre et des siècles à venir, n'est-ce pas? Non, c'est vraiment minime, n'est-ce pas? Eh bien, ce que veut dire ici le Seigneur, c'est que cet humble travail de Zorobabel, qui est une œuvre conduite par l'Esprit de Dieu, est une œuvre qui étendra ses fruits à toute la terre. C'est des petits commencements, ça, mais ça va aller très loin. Les yeux parcourent toute la terre. Les yeux sont avides de la terre, si je puis dire, n'est-ce pas? Voilà, les yeux de l'Éternel sont avides de la terre. Ça, on construit un petit temple à Jérusalem, attention, c'est pour le salut du monde entier. Le salut du monde entier. Dieu a en vue la terre entière. C'est pourquoi il ne refuse rien à Zorobabel de sa puissance et de sa toute science. Il enverra celui qui, dans l'Apocalypse, est appelé l'agneau qui a les sept esprits de Dieu. Il va envoyer celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept yeux de l'Éternel, regarde, considère, inspecte toute la terre, parce que l'œuvre qui se fait à Jérusalem est cela, le salut vient des Juifs. En nous arrivons au verset 11, « Je pris la parole et lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Les deux oliviers qui sont là, évidemment ils ne sont pas très jolis mes oliviers, mais enfin, ce sont les limites de l'épure qui m'ont obligé de les restreindre un petit peu, n'est-ce pas ? De leur faire une coupe un peu serrée. Alors, que sont ces deux oliviers à la droite du chandelier et à la gauche? Et puis, vous voyez qu'au verset 12, ceci, je pris une seconde fois la parole et lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? C'est que, entre le verset 11 et le verset 12, il y a eu un silence. Et l'ange n'a pas répondu à la première question posée par le prophète. Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Eh bien, c'est que il demande quelque chose, Zacharie, qui est le cœur d'un mystère, du mystère, qui est le fond d'un grand mystère, et ce grand mystère, les yeux qui parcourent toute la terre, ce grand mystère contient déjà le mystère du royaume de Dieu. Ah, il en veut beaucoup, il veut beaucoup savoir, le prophète.
ces arbres-là, ces deux oliviers, représentent-ils l'Éternel? Ces deux grappes d'olives, ces deux rameaux qui sont là, d'où coule l'huile, représentent-ils l'Éternel? Eh bien, a priori, oui. Seulement, la chose est difficile, un peu difficile à saisir, mais essayez de me suivre. L'huile ne peut venir, autrement dit, l'esprit ne peut venir que de l'Éternel. Et par conséquent, comme il y en a deux ici, n'est-ce pas, il y a, nous allons voir tout à l'heure, il y a l'huile qui va alimenter d'un côté, puis l'huile qui alimente de l'autre. Cela nous représente deux fonctions qui ont besoin de l'Esprit de Dieu. Alors les deux fonctions, nous les connaissons dans le peuple, c'est la fonction royale et c'est la fonction du souverain sacrificateur. Mais attention, la fonction du souverain sacrificateur, le vrai, le grand souverain, elle va être assurée par l'Éternel, par Yahvé lui-même. Yahvé, n'est-ce pas, en la personne de la parole de Dieu, du Verbe qui va s'incarner, n'est-ce pas, c'est Yahvé. Quant à la fonction royale, n'est-ce pas, au milieu du peuple, le vrai roi du peuple, c'est l'Éternel, du peuple d'Israël, c'est l'Éternel. Par conséquent, n'est-ce pas, ici au départ, eh bien ici c'est, si vous voulez, la parole de Dieu. Et ici, mettons, c'est l'Éternel, n'est-ce pas, c'est Dieu que viennent. C'est pour ça que l'ange se tait, n'est-ce pas. La question, n'est-ce pas, est presque, je dirais, n'est-ce pas, trop profonde, presque indiscrète, n'est-ce pas. Alors, il se tait. Et ensuite, n'est-ce pas, Zacharie, alors, repose sa question en ne s'intéressant plus aux deux arbres, mais aux deux grappes, aux deux rameaux qui laissent couler l'huile. Alors, c'est là que l'ange va lui répondre et lui dire ceci. « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ?» Je dis « Non, mon Seigneur. » Là encore, n'est-ce pas, Zacharie aurait pu, non pas deviner, c'est pas une devinette qu'on lui pose, mais par en s'ouvrant peut-être davantage à l'esprit, il aurait pu déjà comprendre de qui il s'agissait. Et l'ange, au verset 14, dit « Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, ces deux oints, alors nous pouvons, n'est-ce pas, à ce moment-là, voir des hommes, parce que en réalité, dans le texte, ce sont les deux fils de l'onction. Il vaut mieux décomposer, n'est-ce pas, et arriver à ceci, ce que dit littéralement le texte, les fils de l'onction. Ce sont deux fils de l'onction. Ah, ce sont deux fils de l'onction qui sont aussi, si vous voulez, représentés par là, n'est-ce pas. Au début, nous avons été obligés de dire, mais l'huile, c'est-à-dire l'esprit, ne peut venir que de l'Éternel. L'esprit pour la royauté, pour soutenir, exercer la royauté. L'esprit pour le sacerdoce, ça ne peut venir que de l'Éternel. Mais voici maintenant, n'est-ce pas, que nous pouvons comprendre aussi, et l'ange nous dit, ce sont les deux fils d'onction. Et les deux fils de l'onction, eh bien, en Israël, on les connaissait. Car vous aviez... Le souverain sacrificateur qui s'appelait en Israël Akohen Amashia, n'est-ce pas, le sacrificateur ouin, n'est-ce pas, le sacrificateur ouin, Akohen Amashia. Et puis le roi était appelé Meshia Yahvé, c'est-à-dire loin de Yahvé, loin de l'Éternel. Tels étaient les deux fils de l'onction. Et en l'occurrence, les deux fils de l'onction sont Josué, souverain sacrificateur, n'est-ce pas, Amashia, et puis alors le Zorobabel qui reprend la lignée, n'est-ce pas, des descendants de David et la fonction royale, n'est-ce pas, il va la reprendre, elle lui est donnée, là, alors il est lui aussi maintenant un fils de l'onction. Les deux fils de l'onction sont donc, par conséquent, dans le moment, ils sont Josué, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, et puis Zorobabel. Zorobabel, tous deux fils de l'onction. Remarquez une chose extraordinaire, c'est que Josué, on peut le prononcer son mot, son nom, Yehoshua, n'est-ce pas? Yehoshua Amashia, ce qui veut dire maintenant Jésus-Christ. Yehoshua Amashia, n'est-ce pas? En hébreu, il veut dire Jésus le Messie, Jésus loin. Jésus loin. Ces deux fonctions sont les organes des grâces de Dieu pour le peuple. N'est-ce pas? Pour le peuple. Il s'agit en somme, si vous voulez, le chandelier peut, mettons, vous voulez nous parler du peuple, représenter le peuple, disons nous parler du peuple, parce qu'au milieu du peuple, il faut que les sept lampes brillent, n'est-ce pas? Et ces sept lampes, elles ne peuvent être alimentées que par l'huile d'or qui vient de Dieu, de l'Éternel, c'est-à-dire que au milieu du peuple, n'est-ce pas, les grâces doivent se manifester du fait que l'Esprit de Dieu vient dans le peuple par le canal de ces deux fonctions, de ces deux fils de l'onction, le souverain sacrificateur d'un côté, le roi de l'autre. Et j'ai dit, n'est-ce pas, tout à l'heure, qu'à la fin, n'est-ce pas, lorsque le Messie viendra, alors lui, il prendra, n'est-ce pas, les deux onctions. Il prendra les deux onctions à lui, les deux fonctions à lui. C'est lui, en somme, qui va avoir toute l'onction et qui va amener l'onction, le Saint-Esprit, les grâces de l'onction. Il va les amener au milieu du peuple, il va les amener dans le chandelier. Et vous savez que dans l'Apocalypse, chaque église est représentée par un chandelier d'or. Dans l'Apocalypse, et je voudrais, pour terminer, vous montrer cela, chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, nous l'avons vu aussi à notre verset 14 du chapitre 4 de Zacharie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui se tiennent devant le Seigneur, c'est-à-dire qui sont là, prêts, n'est-ce pas, à recueillir ses instructions, hein, ils sont là, prêts à le servir, à recueillir ses instructions. Alors nous avons encore ici, n'est-ce pas, les oliviers qui réapparaissent, avec cette fois-ci deux chandeliers, et les deux oliviers, alors nous est-il dit, ce sont deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Alors, il y a naturellement un rapprochement qui s'impose avec le chapitre 4 de Zacharie, n'est-ce pas? Il y a là, à nouveau, deux témoins, deux oliviers et deux fils de l'onction, et qui sont comme, je ne dis pas, je ne veux pas les nommer et les désigner. Hein. On l'a fait, les uns désignent Élie, d'autres Élie et Moïse, n'est-ce pas? D'autres désignent Élie et Enoch, d'autres et même y ont mis l'apôtre Pierre. Enfin, c'est pas une devinette. L'Écriture, c'est pas donné pour faire des devinettes, n'est-ce pas? Enfin, il y a là deux fils de l'onction. Je dirais qu'ils sont comme. Ce qu'ils sont, l'identité de ces deux fils, elle ne nous est pas révélée. Eh bien, pourquoi allons-nous nous placer des noms là où le Seigneur n'en a pas mis, n'est-ce pas? Alors, nous disons ceci, c'est que, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ces deux témoins de l'Apocalypse 11 sont eux aussi des oliviers ou des branches d'oliviers, ce sont des fils de l'onction qui sont comme un nouveau Moïse et un nouveau Aaron.
Moïse représentait dans le peuple d'Israël la royauté, il est même dit qu'il était roi, n'est-ce pas, la royauté, et Aaron, son frère, représentait le sacerdoce dans la fonction de souverain sacrificateur. Nous retrouvons donc nos deux fonctions, nos deux fils de l'onction, qui se tiennent eux aussi devant le Seigneur pour recevoir ses instructions. Voilà, il y a là, n'est-ce pas, quelque chose d'assez saisissant. Ce qui a eu lieu du temps de Zorobabel et de Josué, n'est-ce pas, et cette vision donnée à Zacharie, nous retrouvons à la fin deux fils de l'onction, avec disposant naturellement de toute la puissance nécessaire, qui sont eux aussi, n'est-ce pas, une réapparition de ces deux grandes fonctions du sacerdoce et de la royauté, mais ils sont là, ils ont un rôle de prophète. Alors nous pouvons les voir comme un nouveau Moïse et un nouvel Aaron, sans que je dise que ce soit Aaron et que ce soit Moïse, n'est-ce pas ? Je vous le dis bien, l'identité, moi je ne me permets pas de la signaler, parce que, n'est-ce pas, alors il faut se batailler avec ceux qui diront autrement, n'est-ce pas ? Et puis ça pose un tas de problèmes qu'il est impossible de résoudre, n'est-ce pas ? Restons dans les limites de l'Écriture. Leur identité n'est pas donnée, Si Dieu veut trouver dans les temps de la fin, dans l'Église, deux hommes dont il fera l'un une sorte de Moïse ou un Élie et l'autre, n'est-ce pas, un Aaron, n'est-ce pas, eh bien, il le peut, certainement, n'est-ce pas, Dieu le peut, par conséquent, ne les nommons pas. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est, n'est-ce pas, ce rapprochement qu'on ne peut pas manquer de faire entre ces deux fils d'onction, dans Zacharie 4 et les deux fils de l'onction que l'on retrouve là à la fin des temps pour une grande mission, c'est-à-dire pour lutter pendant 3 ans et demi contre l'Antéchrist. Lutter contre l'Antéchrist et contre le royaume de la bête. Et c'est pas là une petite affaire, n'est-ce pas ? Voilà, chers amis, notre chapitre 4 terminé. La prochaine fois, nous ferons le chapitre 5.